Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
C'est à toi.
Oui, ben merci. Hey, un beau bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous. J'aurais vraiment aimé être en présentiel, comme on dit. Hier, j'étais en présent sur place. Donc, j'étais vraiment... Excusez-moi. J'étais vraiment content d'être avec vous hier. Ça a été une super belle journée. Et j'ai su ce matin que pour les zones rouges, où moi je demeure, que le 26 mars, ça va être à 25 personnes. Donc, dans deux semaines, quand ça va revenir pour enseigner, Seigneur voulant, je devrais être avec vous. Donc, mais je suis content que vous soyez tous ensemble à l'église ce matin. C'est un avancement, puis on voit que par les partages, les temps qu'on avait hier, tout le monde ensemble, la réunion, la conférence a fini, puis on restait là à jaser. On a besoin de ça, puis c'est bénéfique pour notre foi, puis pour le côté humain de chaleur. On peut mettre la première image du PowerPoint. On va voir un verset ce matin, n'est-ce pas incroyable? On va voir le verset 4 du chapitre 13 de 1 Corinthiens qui parle de l'amour. Et si on prend le bloc des quatre versets, des versets 4, 5, 6 et 7, dans ces quatre versets, on a selon moi une des explications la plus complète de ce qu'est l'amour fraternel, l'amour agapé, l'amour des relations interpersonnelles que Dieu désire pour nous, autant avec notre conjoint dans la famille, avec les frères et sœurs qu'avec tout le monde dans la société. Dans le chapitre 13, 9 fois l'amour est mentionné. Et les 9 fois, c'est toujours le même terme, hein, le terme si connu, le terme agapé de l'amour de Dieu, de l'amour à son plus haut niveau. On peut prendre la prochaine image. C'est comme si Paul faisait passer l'amour par un prisme spirituel et en faisait ressortir 15 couleurs. Je ne sais pas si la prochaine image a été mise, si on peut juste l'avancer. On va voir un prisme et qui fait ressortir 15 couleurs. Ce sont soit des qualités, soit des attitudes, des choses à faire et à ne pas faire. Et ce qu'il y a vraiment de spécial à noter, c'est qu'en français, de la façon que c'est rendu, dans la plupart des versions, il y a beaucoup de noms, de qualificatifs, par exemple, patient, plein de bonté, pas envieux. Mais dans la langue originale, ce sont tous des verbes. C'est 15 verbes. Ça nous dit ce que l'amour fait et ce que l'amour ne fait pas. Et en même temps, hein, c'est très court. Dans ma Bible, moi, c'est une petite 5 lignes là, à peine, mais c'est 15 verbes. On va prendre la prochaine image. Ce passage nous démontre que l'amour n'est pas seulement une émotion cachée profondément, une chose intérieure qu'on ne voit pas. On peut dire l'amour est invisible là, avec les yeux. L'amour ici, dans ce qui est décrit, l'accent n'est pas mis sur ce qu'il est intérieurement, mais sur ce qu'il produit. Donc, l'amour ici, c'est l'aspect de pas être abstrait, passif, mais vraiment actif. On a un beau verset dans la parole de Dieu qui dit dans 1 Jean 3:18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Donc, dans la description des 15 verbes, c'est vraiment l'accent est mis sur les actions, sur ce que fait et sur ce que ne fait pas l'amour. Ce sont des choses simples, directes et profondes. Le plus grand changement qui peut avoir lieu dans nos vies, c'est d'aimer comme il nous est décrit là. Et c'est un des beaux buts. Et quand on dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? » Allez dans 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. On commence avec la première expression qui est, on va voir un seul verset. J'espère qu'on va avoir le temps de voir les cinq expressions, les cinq verbes. Le premier, on peut prendre la prochaine image. L'amour est patient. C'est l'une des descriptions clés de l'amour et on va y passer un peu plus de temps que les autres, donc soyez pas inquiets si je traîne sur elle, c'est voulu, on va aller un petit peu plus rapidement sur les autres. Ici, le terme qu'on pourrait dire, c'est que l'amour pratique la longanimité, hein? Puis la longanimité, c'est un terme qu'on retrouve dans Jacques, dans certaines versions, c'est la capacité de supporter des souffrances morales, à les accepter et à vivre avec. Longanimité, c'est la patience à supporter les souffrances morales, capable d'accepter de souffrir sans réagir avec force. Quand ça dit ici, l'amour est patient, ce verbe d'être patient, c'est toujours utilisé pour la patience avec les gens plutôt qu'avec les circonstances. Donc, si on parle pas d'attendre longtemps à l'urgence ou d'attendre dans la circulation, de pas s'énerver parce que c'est long, ça veut dire d'être capable d'endurer des choses qui nous énervent, qui nous irritent, qui nous blessent dans les relations avec les gens. C'est la capacité d'accepter que la personne nous fasse subir des torts et de ne pas s'emporter, de ne pas se fâcher, de ne pas répliquer. On utilise souvent l'expression hein, d'avoir la mèche courte. Donc ici, on peut dire que l'amour, il a une mèche longue avant d'exploser. Ça peut être un bon exemple. Mais dans la réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas de prendre beaucoup de temps avant de bouillir ou d'exploser. Puis c'est pas même de garder la colère intérieure. L'amour, ce qu'il fait, c'est que devant des situations, il ne développe pas de colère. Il ne s'irrite pas, il n'est pas en train de s'enflammer. L'amour est patient. Il est capable d'endurer, d'avoir de la longanimité et de pas avoir cet énervement à l'intérieur. L'amour, parce qu'elle estime à une grande valeur la personne, demeure là, endure, persévère malgré la souffrance. Et Dieu donne cet amour surnaturel par le Saint-Esprit qu'on est capable de le supporter. Une question à se poser à chacun de soi, personnellement, dans mes relations, dans la famille, est-ce que je suis celui qui fait souffrir les autres, ceux qui nous entourent, ou je suis la personne qui est capable d'endurer, de supporter? À l'époque des Corinthiens, dans la culture grecque, l'idée d'un amour sacrificiel qui, par patience, endure, supporte et est vu vraiment comme une faiblesse. Et pour eux, le fait de s'emporter, c'était un moyen de se faire respecter et de se protéger. La vengeance, le fait de réagir avec force pour faire valoir ses droits, c'était vu comme une vertu. Et quand Paul aux Corinthiens arrive avec cette description-là, c'était révolutionnaire, ça allait à l'encontre de leur culture. Les gens pouvaient se demander, c'est bien beau de faire valoir ses droits, mais quand deux personnes, hein, dans la réalité, s'affrontent parce qu'elles veulent les deux faire valoir leurs droits, il y a des flamèches et c'est ce qu'on voit partout dans 1 et 2 Corinthiens. Qu'est-ce qui arrive dans le couple quand les deux veulent faire valoir leurs droits puis les deux n'ont pas un petit peu là de cette patience-là, quand on n'est plus capable d'endurer rien de la part de l'autre et qu'on réagit par une colère qu'on manifeste. Ça devient invivable parce qu'il n'y a plus d'amour, puis il n'y a pas un des deux ou les deux qui pratiquent cette patience-là. Prochaine image. L'amour endure sans réagir parce qu'il se soucie de l'autre. Il préfère souffrir que de faire souffrir. Il préfère endurer que de se venger. Romains 12, 17 nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » On a juste à penser à l'amour et à la patience de Dieu envers ses enfants, envers tous les hommes. Si à chaque fois qu'on offense Dieu, qu'on lui déplaisait, qu'on lui faisait du tort, Dieu explosait puis était dans une irritation, dans une colère, il y a personne qui subsisterait. Donc, la patience et la bonté de Dieu nous conduit à la repentance. Ici, cette action de l'amour, c'est que cette action-là implique une souffrance. Et une souffrance qu'on a besoin de contrôler et de dire, je ne ferai pas par exprès pour laisser grandir cette souffrance-là. Ce que je veux faire, je veux plutôt la contrôler. Je veux être magnanime. Je veux avoir de la longanimité, supporter des souffrances morale. J'aime beaucoup la version de Paroles vivantes pour les versets 4 à 7. Je les ai souvent lus dans des mariages chrétiens parce que ça décrit d'une façon colorée avec une belle description. Et pour juste le fait que l'amour est patient, ça dit un peu surprenamment, son cœur est largement ouvert aux autres. Intéressant qu'ils traduisent pour l'amour et patience, c'est que son cœur est largement ouvert aux autres. Si on veut se tenir loin des gens, garder des relations superficielles, en mettre un bras entre nous et les gens, on laisse pas les gens s'approcher, on s'engage pas, bien le résultat, on ne souffrira pas, on n'aura pas besoin d'être patient parce qu'on n'aura pas d'occasion de souffrir intérieurement. On n'aura pas de tristesse, mais on n'aura pas de joie non plus. Celui qui aime en étant patient, ce qu'il fait, il ouvre ses bras et il laisse les gens rentrer dans sa vie. Une personne proche peut t'aimer, et parce qu'elle est proche, elle peut aussi te blesser. Et si elle te blesse, bien c'est là qu'en étant patient, on est capable d'accepter. On est capable de ne pas réagir et de ne pas laisser sortir la colère. Et ici, l'idée, c'est vraiment de ne pas seulement se retenir pour pas laisser sortir la colère, c'est que par amour, on apaise cette colère-là. Il y a un calme qui se fait. On est capable d'accepter et on regarde au Seigneur, on comprend qu'il nous aime et qu'on est appelé à aimer les autres. Donc, on est patient. C'est un peu comme ça avec nos époux, avec nos épouses dans le couple, avec nos enfants. Si on n'a pas ces relations, on va avoir la paix, on va s'éviter bien des souffrances, mais on ne vivra pas. Et c'est pour ça qu'il faut accepter les frustrations, les déceptions. Et quand on se souvient que l'amour est patient, bien, on vient devant le Seigneur, on est capable de l'accepter. Dans nos relations entre frères et sœurs, on a le choix. Garder une distance ou entrer en relation. Si on entre en relation, on va être blessé, mais on va avoir aussi de grandes joies et des grandes satisfactions. Et c'est ce qui nous est dit. L'amour, c'est pas de se protéger, de se tenir loin, mais l'amour, c'est d'entrer en relation. Et quand on va entrer en relation, on va devoir être patient, on va devoir accepter les souffrances. Jésus a enseigné là-dessus, hein? Jésus nous a dit dans le verset que vous avez dans le bas de l'image, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? » Je commence par la fin du verset. « Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. » Donc, si on se tient loin, puis on est juste avec les gens qui sont agréables puis faciles, bien, notre amour, il n'y a pas l'occasion de se manifester, de se démontrer. On n'a pas l'occasion de le vivre. Jésus disait, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et dans le cadre des relations avec les frères et sœurs, bien, ce que ça nous dit, c'est l'amour est patient. Puis soyez patient avec tout le monde, pas seulement avec ceux que c'est facile d'être patient parce que ces gens-là sont agréables. Soyez patient avec ceux qui peuvent un peu vous provoquer, là, qui peuvent faire en sorte que ça va être difficile de continuer à aimer. L'amour de 1 Corinthiens 13, excusez-moi, l'amour d'un Corinthiens 13 est un amour qui, excusez-moi encore, qui nous arrache le cœur. C'est loin d'être facile, c'est loin d'être naturel, c'est spirituel et c'est le Saint-Esprit qui le produit, c'est Dieu qui va le mettre dans nos cœurs. On a tous une limite personnel, jusqu'où on est prêt à aller. Et au-delà de ça, on dit c'est trop. On peut patienter, on peut endurer pour aimer jusqu'à un certain point, mais plus loin, on dit ah là, j'en peux plus. Et là, c'est le temps de demander à Dieu de dire tu dis que l'amour est patient, mais Seigneur, donne-moi cet amour. Si aimer est si dur, si exigeant, pourquoi vouloir aimer? Pourquoi vouloir payer le prix? Pourquoi un si grand engagement? Parce que c'est ça l'amour que Dieu nous a donné, puis c'est ça qu'il veut qu'on vive. Donc, un premier point extrêmement important, l'amour est patient. Et c'est un des points qu'on a besoin de se rappeler. Seigneur, regarde, je veux accepter de souffrir. Ce gars-là me fait sortir de mes gonds. Ce frère me exige de moi des choses difficiles. Bien, je veux continuer à aimer. Il y a une place pour parler, pour dire non, c'est assez. Mais si à la moindre contrariété, on est toujours en train de lever le drapeau, de dire c'est mal ce que tu fais, parle-moi pas de même, on pourra plus avoir de relation. Donc, premier point, l'amour est patient. Deuxième image, l'amour est plein de bonté. comme la patience ne fera pas de mal au prochain parce qu'il ne réagira pas, eh bien ici, la bonté est le complément de la patience. La bonté, elle, elle va faire du bien. Comme toutes les autres descriptions, c'est un verbe d'action. On peut dire l'amour est plein de bonté, il est serviable. C'est de faire du bien dans des actions concrètes. Et ici, c'est beaucoup plus que d'avoir des bons sentiments dans son cœur. C'est de faire de bonnes actions. Quand on aime, on donne, on sert, on répond aux besoins. Et ici, c'est l'aspect de, pas seulement de vouloir le bien des gens, d'avoir des bons sentiments, mais d'y travailler. On peut vraiment dire, l'amour, c'est d'exercer la bienveillance, de voir au bien des gens, d'être intentionné. Dans Tite 3-4, hein, ça nous dit que la bonté de Dieu et son amour ont été manifestés sur la croix. La bonté est une composante de l'amour qui a été démontrée par une action précise, concrète et extrêmement importante par la mort de Jésus. Et pour quel drame pour l'humanité si Dieu n'avait eu que des sentiments de bonté, mais sans action. Dans le foyer, est-ce qu'on fait ces actes de bonté-là qui démontrent concrètement notre amour? Dans la famille, comme dans l'église locale, l'amour, ce n'est pas que d'avoir des bons sentiments de bonté, mais de pratiquer ces actes de bonté-là. C'est là qu'on va pouvoir recevoir l'amour, le voir. Je vois maintenant à quel point je suis aimé, apprécié à cause de ce que les gens font envers moi. Ça peut être de faire un sourire. À cette heure, on peut plus donner de câlins, mais il y a une façon de démontrer que l'autre compte et d'exercer ce bonté. Qu'est-ce que l'amour? Ce que l'on ressent ou ce que l'on fait? Ben, l'amour véritable que l'on ressent va nous pousser à l'action pour faire du bien. La prochaine image, qui est la dernière, on est rendu à l'amour n'est pas envieux. Et là, on a un trio qu'on va voir. On va voir l'amour n'est pas envieux, il ne se vante point et l'amour n'est pas orgueilleux. Et ce qui est intéressant, c'est que l'amour n'est pas envieux, c'est le premier de 8 composantes négatives de l'amour. C'est encore toutes des verbes et ce sont des choses que l'amour ne fait pas. Et il y en a 8 de suite qui continuent dans les versets 5 et 6. Et nous, on va voir les 3 qui sont dans le verset 4. Donc, l'amour n'est pas envieux. L'envie, hein, et c'est un zèle à vouloir le plaisir et l'avantage que l'autre ressent. Et vous dites, Richard, pourquoi tu dis que l'amour est un zèle? Parce que dans l'original, le verbe qui est là, c'est le verbe zelo, hein, Z-E-L-O-O. Et dans le verset 31, quand ça dit « aspirer aux dons les meilleurs », eh bien, le verbe qui est là, c'est le verbe zolo qui est le même de ne pas envier. Donc, c'est désirer une chose ardemment, d'avoir un fort désir. C'est le même verbe. Ce verbe-là veut dire d'aspirer, de désirer fortement, de convoiter. Hein? Quand il disait aspirer aux dons les meilleurs, c'était de convoiter positivement l'amour. Hein? Le don les meilleurs, c'était l'amour qu'on est en train de voir. Donc ici, l'amour n'est pas en train de convoiter ce que l'autre a. L'envie ou l'action d'envier, c'est ce qu'on appelle généralement dans la société moderne la jalousie. L'amour et l'envie ne peuvent exister ensemble. Quand l'un des deux est présent, l'autre disparaît. S'il y a de l'amour, il n'y a pas d'envie. Et s'il y a de l'envie, il n'y a pas d'amour. On peut dire qu'il y a deux sortes d'envie ou de jalousie. Je veux ce que tu as, ce que quelqu'un d'autre a, une auto, une position, un salaire, son apparence. On regarde puis on le veut. Et parfois, la jalousie est tellement forte qu'on veut que l'autre perde. Hein? On lui souhaite du mal. Désirer que l'autre perde ce qu'il a parce que nous, on l'a pas. Lorsque celui qui aime voit quelqu'un qui est doué, talentueux, apprécié, qui réussit, eh bien, il se réjouit pour lui. C'est dans la nature même de l'amour de vouloir le bien de l'autre et de s'en réjouir. Rarement sommes-nous jaloux de nos enfants, parce que nos enfants, c'est notre chair. Leur succès, c'est notre succès. On a investi nos vies en eux, puis on se réjouit de les voir réussir puis s'épanouir. Quand on pense à la joie sans jalousie qu'on ressent quand nos enfants ont du succès, soit un diplôme, un nouvel emploi, une reconnaissance publique, on aime nos enfants, puis c'est comme si ça nous arrivait à nous, leur succès, c'est notre succès. Et c'est pourquoi on se réjouit et il n'y a absolument aucune jalousie, c'est de l'amour. Eh bien, cet amour sans jalousie, on devrait l'avoir envers tous d'une façon désintéressée, même envers ceux qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu. Envers ceux qui semblent être toujours les mêmes à recevoir la louange et la gloire. Ça doit être la même chose dans l'Église, dans nos relations. Ton frère est apprécié, ton frère pour un temps est mis en évidence, oui, il réussit. Eh bien, ce qu'on veut, c'est se réjouir pour lui. Ta sœur bâtit des relations harmonieuse, elle est appréciée, il y a beaucoup de gens autour, puis c'est vrai qu'elle est rayonnante, puis c'est une source de joie. Les Corinthiens étaient très jaloux. Alors, on voit tout partout qu'ils recherchaient les dons les meilleurs, hein? Ils recherchaient les ministères les plus glorieux à leurs yeux, puis ils se disputaient pour dire moi j'ai un don supérieur au tien, moi je parle en langue, moi je guéris, puis il y avait des tensions, hein. Ils jouaient du coude, ils voulaient se mettre en évidence, puis ils voulaient dire moi je suis meilleur qu'eux, et il y avait beaucoup de jalousie. Et ça malgré que Dieu et par l'entremise de Paul voulait constamment leur dire que vous êtes un corps, que vous êtes tous membres les uns des autres, puis que vous avez une valeur égale. Hein. Il prend cet exemple en disant, si t'es un œil ou si t'es une oreille ou t'es une main, t'as pas à te glorifier puis à te comparer. Vous êtes tous importants. L'envie, lorsqu'elle nous contrôle, est extrêmement destructrice. On a plusieurs exemples dans la parole, hein? Juste avec nos parents, premier être humain. Hein? Ève, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et elle a convoité, elle a voulu avoir la seule chose que Dieu lui avait dit qu'elle ne pouvait pas avoir le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'envie, c'est destructeur. On pense à Caïn qui a tué son frère Abel parce qu'il était jaloux. On pense à Joseph qui a failli mourir à cause de la jalousie de ses frères. Hein. Ils ont voulu le tuer, mais après ça, ils l'ont jeté dans un puits, mais après ça, ben, ils l'ont vendu. Daniel a été jeté dans la fosse au lion par jalousie des autres princes qui étaient là. Ne laissons pas la jalousie grandir dans notre cœur. On a besoin de se pincer et de dire wow, 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 là, je suis pas en train d'aimer quand je suis jaloux et je m'en vais pas dans la bonne direction. On a un exemple dans la Bible qui est vraiment frappant, puis un exemple d'amour parfait sans jalousie. On pense à Jonathan. Jonathan qui était le fils du roi Saül et son amour pour David était parfait. David prenait sa place à lui sur le trône, mais il reconnaissait que c'était le plan de Dieu, il s'en réjouissait, puis il a démontré une fidélité sans faille envers David durant toute sa vie. Quel exemple d'amour exempt de jalousie. Envier, c'est pécher de plusieurs manières. Premièrement, c'est ne pas se réjouir pour l'autre. Et c'est aussi ne pas accepter le plan et la direction de Dieu pour nos vies. C'est comme dire, Dieu, t'as écrit un script, tu m'as écrit un rôle pour ma vie, puis j'aime pas ce que t'as en réserve, j'aime pas ce que le chemin dans lequel tu me diriges, c'est vraiment s'opposer à ce que Dieu permet puis dirige dans nos vies. Envier, c'est ne pas pratiquer le contentement. Être content dans l'état où nous sommes. Être content, accepter nos circonstances, sachant que Dieu est là puis que Dieu prend soin de nous. Donc, troisième, l'amour n'est pas envieux. Quatrième, on y arrive, on avance bien. Quatrième, l'amour ne se vante pas. La vantardise, se vanter, se mettre en valeur, s'élever, exagérer nos mérites, avoir une image trop avantageuse de soi, hein, c'est vouloir se mettre en évidence, chercher notre intérêt personnel. Et dans la parole vivante, quand pour l'amour ne se vante pas, ça dit l'amour ne cherche pas à se faire valoir. Dans le livre des Proverbes, ça dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Et socialement, d'une façon naturelle, il y a tout de suite quand quelqu'un vient vers nous puis commence à se vanter, met ses accomplissements, pas qu'il y a une place pour partager ce qu'on a fait, surtout si on est content de l'avoir fait, mais il y a une marge entre partager ce qui nous est arrivé, qui nous a donné de la joie, puis d'étaler nos accomplissements pour un peu s'élever au-dessus des autres, pour démontrer qu'on est meilleur. Et l'orgueil, que ce soit sur des vedettes, que ce soit sur des sportifs, c'est très rare qu'on voit des entrevues puis que le joueur de hockey va dire à quel point il est le meilleur puis que c'est tout de suite il y a quelque chose qui cloche dans nos oreilles, là ça nous dérange. L'amour n'étale pas ses accomplissements et ses succès parce qu'il veut pas blesser ou irriter l'autre. L'amour va vouloir mettre l'autre personne en valeur. Il va donner des éloges aux autres au lieu de s'en donner. L'envie qu'on a vu précédemment, c'est de vouloir ce que les autres ont. La vantardise, si on fait un lien, c'est vouloir que les autres convoitent ce qu'on a, de dire « Oh, regarde comment je suis bon, hein, tu devrais m'envier. » On peut aussi faire un lien et un complément entre l'envie, la vantardise et l'orgueil, qui est notre prochain verbe. On convoite un avantage, puis parce qu'on l'a pas, on cherche à se faire valoir, puis ensuite on se compare aux autres en s'élevant au-dessus des autres. On a besoin de lâcher prise, on a besoin de faire une action, puis l'action c'est de dire « Non, je veux pas me vanter. Non, je ne veux pas envier. Non, je résiste, je dis non à l'orgueil. » Autant la vantardise est irritante lorsque les autres le font, autant on peut être porté à se vanter subtilement, sans s'en apercevoir. Et on a besoin d'être sensible, puis de voir, est-ce que je parle trop de moi? Est-ce que je parle trop de comment j'ai fait des grandes choses. On pense sur Facebook, hein, on fait un repas puis on voudrait presque que la terre entière sache que on a cuisiné ce repas-là. On fait un voyage puis on veut démontrer que c'était une grande aventure. Regardez comment j'ai une belle vie. Il y a beaucoup de choses qu'on a besoin d'appliquer dans ce domaine-là. Donc, les Corinthiens, eux, ils voulaient le ministère le plus important, le plus envieux. Ils voulaient s'élever par ce qu'ils faisaient pour Dieu. Faisons attention. On termine avec le troisième verbe négatif, ce qu'on ne fait pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil, hein? Et l'orgueil, on connaît bien ça, c'est se croire meilleur, c'est chercher à s'élever au-dessus des autres. Et une personne avec une faible estime de soi, avec des sentiments d'infériorité, va réagir de deux façons opposées. Soit qu'elle va s'apitoyer sur elle-même, elle va s'abaisser encore plus, « Ah, oh, je suis pas bon », elle va se diminuer. Soit que pour faire face à ses sentiments d'infériorité, elle va s'élever. À ses yeux, elle veut pas grand-chose, elle le sait, mais elle veut s'élever, elle veut se valoriser, se faire valoir. Et ici, c'est ce qui est dit, que l'amour ne cherche pas à s'élever. L'orgueil chez les autres n'est jamais la bienvenue, c'est pas bien vu. Au travail, dans votre quartier, dans la famille, aussitôt que quelqu'un s'élève, s'enfle d'orgueil, les oreilles nous titillent, là, ça nous agace. On réagit ainsi parce que c'est un manque d'amour. L'amour donne. L'amour s'intéresse aux autres. L'amour fait ça naturellement. De donner de l'honneur, de donner de l'élévation, de l'importance aux autres. Et quand on a déjà cet amour-là dans notre cœur qui vient de Dieu, on est en paix, on n'a pas besoin d'être tant élevé, on est confortable et cet amour-là, cet honneur-là, cette considération, on peut la donner aux autres. On n'a pas besoin de s'élever parce qu'on est satisfait et comblé. On est en paix, on est dans la joie. On n'a pas besoin que par nos accomplissements, d'avoir une image de grandeur, de grandir en popularité. Comment savoir si, pour résumer un peu nos cinq caractéristiques. Comment savoir si nous avons de l'amour? Notre réponse, notre réaction devant celui qui dit du bien de nous puis qui nous fait du bien, on dit c'est tout un frère. Il m'élève, il me donne des compliments. On dit waouh, c'est vraiment quelqu'un rempli de sagesse. Hein? Il m'a élevé. Mais quelle est notre réaction puis notre réponse devant celui qui ne démontre pas beaucoup d'intérêt pour nous? Celui même qui ne nous approuve pas, qui va nous critiquer un peu, qui va nous faire un peu de mal là, par un commentaire ou une attitude, il ne contribue pas à ma gloire, à mon bien-être, à mon élévation. C'est là que comment je réagis? Est-ce que je vais être capable de dire Seigneur, le contact avec cette personne-là n'est pas positif, mais moi, je vais donner à ce frère, à cette sœur, à cette personne, je vais lui donner ce que j'ai pas reçu de sa part, de cet amour, où je mérite pas, où je suis capable de faire preuve de bonté, même si au premier contact, j'en ai pas eu. L'amour est capable de donner de l'honneur à l'autre, de la considération. Je me suis pas senti aimé par lui, mais j'ai cet amour à donner. L'amour est fait premièrement pour donner et non pour recevoir. On peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et quand notre cœur est vide, quand on est porté à être jaloux, à être irrité, à vouloir rabaisser l'autre, on a besoin de faire le point, de venir devant le Seigneur. Seigneur, j'ai reçu de toi un amour incroyable, un amour qui est inconditionnel, un amour qui changera pas. Je peux te décevoir, Seigneur, mais tu vas toujours m'aimer, tu vas avoir toujours des sentiments de bienveillance envers moi. Tu vas toujours être patient. Tu t'irrites pas facilement. Je peux faire des erreurs. Je peux te décevoir, Seigneur, mais tu continues à m'aimer. Le Seigneur veut nous apprendre à vivre cet amour-là, à le donner. Et quand notre cœur apprend à aimer comme ça, notre cœur, il s'agrandit. Notre cœur, il éprouve des émotions de joie, de satisfaction, de dire « Wow! » Seigneur, tu m'as appris à aimer cette personne-là qui était pas aimable, puis la relation a changé, puis elle est devenue agréable parce qu'elle s'est sentie aimée. L'amour est une action. Aimer, c'est le plus grand commandement. Et on est appelé à aimer comme Jésus nous a aimé. Il n'y a rien de mal à ce que notre amour soit des émotions, des sentiments à l'intérieur, mais ce que ce passage nous dit avec ses 15 verbes et avec les 5 actions concrètes, même s'il y en avait 3 qui étaient négatives, c'est que l'amour a besoin d'avoir des pattes, hein? L'amour prend des mains. L'amour s'extériorise. Que le Seigneur nous donne la grâce de méditer sur ces 5 caractéristiques, qu'on puisse les avoir en tête. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Puis, Seigneur, on a besoin de ta parole. On a besoin de directives claires. On a besoin que, par ton Saint-Esprit, tu viennes faire la lumière dans nos vies sur le manque d'action, le manque de de capacité à mettre en pratique cet amour-là. Un amour qui accepte de souffrir. On va être patient, pas parce qu'on est faible. On va accepter de souffrir, pas parce que on n'est pas intelligent, mais volontairement parce que c'est ce que tu nous demandes. Seigneur Jésus, comme on est des mendiants de l'amour, Seigneur, tellement souvent on se prive de ton amour. On veut juste avoir des relations justes. On veut pas aller un peu plus loin. On veut juste que les gens nous traitent bien. Et Seigneur Jésus, donne-nous cet amour agapé, cet amour de Dieu, cet amour qui surpasse les convenances humaines. Seigneur Jésus, merci parce que on a des frères et sœurs dans l'Église qui nous aiment comme ça, qui sont patients, qui usent de bonté envers nous. Et Seigneur Jésus, on veut répondre à ton amour et on veut répondre à l'amour de nos frères et sœurs en les aimant à notre tour. On veut devenir cette communauté aimante, bénissante, guérissante, où on se fait du bien parce que on met en action ton amour, Jésus. Merci encore une fois pour cette rencontre, pour le privilège, pour tous ceux qui sont dans la salle d'être là ensemble et que ton amour se voit, qu'il soit à l'œuvre. On te le prie en ton nom. Amen.